Vous écoutez On lit pour vous.
La meilleure personne pour aider un humain, c'est un autre humain. Un texte de Marie-Ève B. Allary, paru le 10 septembre 2025 dans l'Hebdo Journal. Au Centre de prévention du suicide L'Accalmie, on s'inquiète de voir de plus en plus de Québécois se tourner vers les outils d'intelligence artificielle, IA, pour parler de leur détresse et de leurs problèmes de santé mentale, car cette façon de faire comporte des dangers. La semaine dernière, la presse dévoilait le résultat de son expérience qui consistait à tester 4 robots conversationnels pour voir comment ils conseilleraient une adolescente aux prises avec des idées suicidaires. Après avoir reformulé un peu les requêtes initiales pour lesquelles les robots suggéraient des ressources spécialisées, la plupart des robots ont ensuite détaillé diverses manières de se donner la mort, mentionne l'article. Des cas ont d'ailleurs été recensés aux États-Unis où des personnes se sont donné la mort après avoir échangé des idées suicidaires avec des robots conversationnels. Les applications IA ne sont pas conçues pour mener des interventions en situation de crise. Les confondre avec une solution d'intervention serait une grave erreur, insiste Patrice Larrain, directeur général du Centre de prévention du suicide Accalmie. Ça ne considère pas le non-verbal. De notre côté, on travaille aussi avec le non-verbal et on forme nos intervenants en ce sens. Ça peut être dans l'intonation de la voix, le débit, le rythme et même les bruits ambiants. Un être humain, c'est complexe. Il faut rappeler aux gens que l'intelligence artificielle ne se substitue en rien à une intervention en direct avec un humain. On prend les appels en direct. Il n'y a pas d'attente. Au final, la meilleure personne pour aider un humain, c'est un autre humain. Une autre chose me préoccupe aussi avec l'intelligence artificielle. Il s'agit d'algorithmes et des millions de facteurs sont pris en compte. Mais derrière tout ça, ce sont des business. L'IA ne te confrontera pas. Il va plutôt te conforter dans tes positions. En intervention, on ne cherche pas à faire plaisir, mais plutôt à offrir de l'aide pour répondre à la détresse. L'IA n'a pas été conçue pour offrir des services de relations d'aide, quels qu'ils soient, précise M. Larrain. Parler du suicide. La Journée mondiale de prévention du suicide a lieu chaque année le 10 septembre pour attirer l'attention sur les problèmes du suicide dans le monde entier. Selon le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parler du suicide avec une personne qui nous inquiète n'incite pas cette dernière à passer à l'acte. À l'inverse, ça montre qu'on s'intéresse à la personne, qu'on ne veut pas la voir souffrir. Poser la question pour savoir si un proche qui semble vivre de la détresse a des idées suicidaires, c'est un pas vers la possibilité de lui venir en aide, souligne Patrice Larrain. Il est normal de ne pas être à l'aise de recevoir ce type de confidence de la part d'un proche et de ne pas savoir comment réagir. Le Centre de prévention du suicide Accalmie encourage les gens à faire appel à ses services pour obtenir du soutien. On offre des services aux gens qui vivent de la détresse, mais aussi à leurs proches, tout comme aux endeuillés par le suicide, indique M. Larrain. Si un proche ne sait pas comment aborder le sujet, on peut donner des trucs. Quand ça devient trop lourd, on peut également prendre le relais et parler à la personne. On ne veut pas que le proche se retrouve envahi par trop d'émotions ou encore d'un sentiment de responsabilité ou de culpabilité. Depuis la pandémie, l'organisme assiste à une augmentation de 33 % du volume d'appels. On arrive avec une génération plus sensible qui accepte davantage la relation d'aide, fait remarquer le directeur général de l'Accalmie. La pandémie a amené son lot de stress et d'anxiété. On constate aussi que nos services sont mieux connus et utilisés. Sur le plan national, le taux de suicide demeure stable. C'est important de continuer à encourager les gens à demander de l'aide, conclut-il. Si vous vivez un moment difficile ou si vous êtes inquiet pour un proche, plusieurs ressources sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, plateforme d'information et de clavardage en ligne, suicide.ca, info sociale 811, option 2, jeunesse j'écoute, 1-800-668-6868 ou tel jeune, 1-800-263-2266. Ligne téléphonique pour les communautés autochtones, 1-855-242-3310. L'aide par SMS au 53-53-53. C'était « La meilleure personne pour aider un humain, c'est un autre humain », un texte de Marie-Ève B. Allary, paru le 10 septembre 2025 dans l'Hebdo Journal.
Une expérience multisensorielle pour apaiser des résidents du CHSLD Cook. Un texte d'Alexandra Fortin et Laurence Trahan, paru le 6 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Cook innove en offrant une expérience multisensorielle conçue pour apaiser et rassurer ses résidents. Pour son projet « Les rêveries de la libellule », la bénévole Lucie Lamotte s'est inspirée d'une approche néerlandaise, initialement dédiée aux enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. « Je me suis dit, il y a moyen peut-être d'adapter cette approche à nos gens qui sont en fin de vie, en soins palliatifs, en accompagnement », explique la membre de l'association Bien-être résident. Elle a pu compter sur l'aide d'un ébéniste pour construire le chariot de bois dans lequel se cachent plusieurs objets sensoriels. Un diffuseur d'huiles essentielles, une colonne de bulles, des câbles de fibres lumineux, des coussins et des balles sensorielles leur permettent de s'évader l'instant d'un moment grâce à leur sens. « On dirait que ça nous calme quand on est nerveuse », remarque une résidente. Une seconde en a aussi ressenti les bienfaits. On ne pense plus à notre mal. Tu le sens moins parce que tu n'y penses pas, se réjouit-elle. Le plus bel exemple que j'ai, c'est une dame. Cette dame ne bougeait pas, mais elle était en fauteuil roulant et j'avais pris le coussin sensoriel avec battement de cœur. Elle a mis sa tête sur le petit coussin, elle a dit « Maman » et elle s'est endormie. Ça, c'est mon plus beau souvenir, dit Lucie Lamotte. C'est l'effet que Lucie Lamotte espérait. Les personnes qui peuvent avoir de la démence ou encore Alzheimer, ça les aide vraiment à s'orienter dans l'espace, à se détendre et tout, illustre-t-elle. Elle peut maintenant compter sur l'aide de 18 autres bénévoles qu'elle a formés. Une dizaine de personnes sont sur une liste d'attente, prêtes à recevoir la formation. C'était une expérience multisensorielle pour apaiser des résidents du CHSLD Cook. Un texte d'Alexandra Fortin et Laurence Trahan, paru le 6 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
L'avenir de l'audiovisuel passe aussi par les parcours atypiques. Un texte de Kim Auclair, paru le 10 septembre 2025 dans Les Affaires. J'ai survolé avec intérêt le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, commandé en 2024 par le ministre de la Culture et des Communications. Ce document, intitulé « Souffler les braises », propose 20 recommandations et 76 mesures pour adapter le secteur aux réalités actuelles. On y parle d'augmenter le budget de Télé-Québec, de soutenir davantage les créateurs, d'adapter les incitatifs fiscaux et de renforcer la découvrabilité du contenu québécois. Des propos justes et nécessaires. Mais à travers ma propre expérience, j'ai constaté une chose, les parcours atypiques, pourtant riches en innovation, demeurent trop peu reconnus et soutenus. Produire sans les appuis traditionnels. Quand j'ai décidé de produire la saison 2 de « Capable, entreprendre sans limite », un magazine web qui donne la parole à des personnes en situation de handicap ayant créé leurs propres opportunités, qu'elles soient travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprises, sportifs ou encore artistes, je savais que je n'entrais pas dans les critères traditionnels. Mes recherches de financement dans le secteur audiovisuel m'ont mené à des obstacles. Les crédits d'impôt, par exemple, sont réservés à des productions télévisuelles diffusées sur les chaînes traditionnelles. Je sais très bien qu'il s'agit de ma première expérience en tant que productrice. J'aurais aimé avoir plus de facilité à trouver du financement. Comme ce n'était pas le cas, j'ai dû me débrouiller autrement. Prêts, subventions, commandites provenant de partenaires en dehors du milieu audiovisuel, sans oublier mes propres investissements. J'ai également fait appel à une coach pour m'aider à adopter la posture nécessaire afin de mieux vendre mon projet et comprendre les réalités de l'industrie. Cette débrouillardise m'a permis d'avancer, mais elle a parfois mis à l'épreuve mon énergie et mon équilibre, tout en renforçant ma détermination à mener le projet à terme. C'est probablement mon tempérament d'entrepreneur. Chaque obstacle rencontré devenait pour moi une occasion de démontrer que j'étais capable. Un parcours atypique, mais des compétences réelles. Je n'ai pas étudié en production télévisuelle. Ma force est de bâtir des projets à partir de zéro, de passer de l'idée à l'action, de les animer en les faisant connaître, en mettant de l'avant des messages clés. J'ai un DEC en graphisme et plus de 20 ans d'expérience en communication numérique. Graphisme, référencement web, rédaction, développement d'affaires, relations de presse, création et gestion de sites web, animation radio et balado, coordination de projets vidéo, etc. J'ai aussi participé à des campagnes publicitaires et vécu l'expérience de tournage en studio, notamment grâce à une série documentaire. Je n'ai peut-être pas les méthodes des grandes entreprises pour mener un projet de production, mais je les applique à ma façon. Toutes ces compétences, acquises au fil d'expériences variées, autant auprès d'entreprises privées que d'organismes sans but lucratif et d'agences de publicité, je les ai mises au service de cette première expérience de production audiovisuelle. À plusieurs reprises, on m'a fait sentir que je n'étais pas assez. Pas assez crédible, parenthèse, ce n'est pas évident quand on n'a pas étudié dans le domaine, qu'on ne maîtrise pas tous les termes de l'industrie et qu'on en est à sa première démarche de financement pour un projet de production. Fin de parenthèse. Pas assez suivi sur les réseaux sociaux pour capter rapidement l'attention. Pas assez considéré à ma juste valeur. Et parfois, pas assez reconnu pour l'expérience concrète et la débrouillardise que j'apporte. Je sais que ce projet est encore en démarrage. Je sais aussi que, comme tout projet entrepreneurial audacieux, convaincre les premiers partenaires clés est toujours plus difficile. Mais tout ce que je demandais, c'était qu'on prenne le temps de m'écouter. Je suis pleinement engagée dans tout ce que j'entreprends. C'est « pas assez » forme un mur invisible qui décourage bien des créateurs atypiques. Citation. Les institutions culturelles du Québec, Ellipse, doivent s'ouvrir davantage, gagner en transparence, simplifier leurs mécanismes et assumer pleinement leur rôle de soutien à la création indépendante, à la diversité des récits et à l'expérimentation. Fin de citation, peut-on lire dans le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec. Un projet inclusif et ancré en région. L'accessibilité a toujours été au cœur de mon approche et j'en apprends un peu plus chaque jour. Comme la saison 1, produite par l'Office des personnes handicapées du Québec, avait été traduite en langue des signes québécoise, LSQ, j'ai tenu à poursuivre cette démarche pour la saison 2, en plus de réaliser les sous-titres et la transcription textuelle de chaque épisode. même si j'ai eu de la difficulté à trouver du financement pour cette partie. Pourtant, l'accessibilité universelle devrait être considérée comme un investissement stratégique et non comme une dépense. Le rapport le rappelle clairement. Citation : Renforcer les mesures de soutien à l'accessibilité universelle. Une part importante du public québécois, notamment les personnes en situation de handicap visuel ou auditif, ainsi que les allophones, rencontrent encore de nombreux obstacles pour accéder pleinement aux œuvres audiovisuelles. Ellipse. Des standards d'accessibilité élargis seront imposés à toutes les productions audiovisuelles financées ou diffusées au Québec. Le sous-titrage pour sourds et malentendants, la vidéodescription pour personnes aveugles et malvoyantes, ainsi que d'autres dispositifs adaptés devront être systématiquement intégrés dès la phase de production. Ellipse. Fin de citation. Vous écoutez « L'avenir de l'audiovisuel passe aussi par les parcours atypiques », un texte de Kim Auclair paru le 10 septembre 2025 dans Les Affaires. Nouvellement installé à Shawinigan depuis 2023, j'ai décidé d'y tourner la saison 2. La saison 1 avait été réalisée dans un studio de balado à Montréal que j'avais choisi, puisque j'étais chargée de coordonner les journées de tournage et le montage, en plus d'assurer l'animation et la promotion. Je croyais que le lieu était accessible, mais j'ai vite constaté que mes invités rencontraient certains défis. Ça m'a mise mal à l'aise, même si l'expérience s'était bien déroulée. Dans mes démarches pour trouver un studio pour la saison 2, j'ai constaté qu'il n'est pas simple de repérer des lieux véritablement accessibles, que ce soit à Québec ou à Montréal. Les sites web que j'ai consultés ne donnaient pas d'informations claires à ce sujet. Après plusieurs échanges avec des propriétaires de studios, j'ai finalement trouvé un endroit professionnel à seulement 15 minutes de chez moi, Nomade.tv, dirigé par Normand Flageol, qui est lui-même sensibilisé à la réalité des personnes en situation de handicap. Le studio est situé au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins-Shawinigan, CEADS, un établissement conçu en tenant compte de ses réalités. Tourisme Shawinigan a aussi offert un séjour personnalisé à chaque invité de l'extérieur, transformant l'expérience en une mise en valeur humaine et inclusive de la ville, bien plus qu'une simple campagne marketing. Des constats qui rejoignent le terrain. En lisant le rapport, plusieurs passages ont retenu mon attention. Sur la transition numérique. Citation : La bascule vers le numérique est frappante. Alors que le temps moyen de consommation des médias traditionnels, télévision, journaux, magazines et radio, chute de façon marquée, celui des médias numériques progresse. Ellipse. Le secteur audiovisuel québécois n'évolue pas, il bascule. Fin de citation. C'est exactement dans cet esprit que j'ai créé le site web capable.media afin de soutenir la diffusion de mon projet en m'inspirant des pratiques déjà bien établies dans le numérique et l'audiovisuel. Sur la lourdeur administrative. Citation : Il est recommandé de moderniser les processus administratifs afin de rendre les programmes plus agiles et mieux adaptés aux réalités du terrain. Cela passe par la révision des processus et des critères de dépôt, la simplification des étapes de traitement des demandes et la réduction des délais de réponse. Fin de citation. Je comprends que remplir les formulaires et y consacrer du temps démontre un certain sérieux. Mais le langage utilisé ne m'était pas familier et en voyant tout ce que ça impliquait, je me suis sentie découragée. Je ne maîtrise pas encore le vocabulaire du secteur ni les bons termes pour « vendre » un projet. J'ai compris en cours de route qu'il valait mieux, par exemple, utiliser le mot « magazine » plutôt que « balado ». Et c'était juste. Le projet était bel et bien tourné dans un studio de télévision professionnelle. Sur l'inclusion. Citation : Pour bâtir un système durable, nous croyons que l'inclusion doit faire partie intégrante des mécanismes de financement et non être reléguée à des fonds distincts. Séparer, c'est risquer d'isoler. Fin de citation. Trop souvent, j'ai eu l'impression que mon projet n'était pas assez pour entrer dans telle ou telle case. J'ai toutefois apprécié les personnes qui ont pris le temps de me répondre par courriel ou de me rencontrer virtuellement afin de m'expliquer autrement certains documents à soumettre et surtout de reformuler avec des mots plus simples. pour un avenir plus ouvert. La saison 2 de « Capable, entreprendre sans limite » sortira en octobre 2025. Est-ce que ce sera parfait? Non. Mais ce projet prouve que, même sans passer par les circuits traditionnels, il est possible de produire un contenu professionnel, pertinent et porteur de sens. J'aurais pu en faire un simple balado, mais j'ai choisi de montrer ce dont j'étais capable. Chaque refus m'a poussé à aller plus loin. Je me suis sans doute compliqué la vie en ralentissant les activités de mon entreprise pour investir mon temps dans ce projet, mais je n'ai jamais autant appris. Mon souhait pour la suite est bien sûr que ce projet dure dans le temps, mais aussi que l'on accorde une place réelle aux initiatives portées par des personnes ayant des parcours différents de ceux attendus dans le milieu. Il faut également augmenter la présence des personnes en situation de handicap dans cette industrie, tant devant que derrière l'écran. Ça implique, entre autres, plus de flexibilité dans certains critères, une simplification des démarches, l'intégration de l'accessibilité universelle et la reconnaissance de la valeur de ceux qui osent innover autrement. L'avenir de l'audiovisuel québécois, tout comme celui de l'entrepreneuriat plus inclusif, dépendra de la volonté des acteurs de l'industrie et des partenaires économiques de soutenir l'inclusion et ceux qui osent autrement. C'était « L'avenir de l'audiovisuel passe aussi par les parcours atypiques », un texte de Kim Auclair paru le 10 septembre 2025 dans « Les affaires ».
Plusieurs résidences à assistance continue de Lanaudière sont inadéquates, juge le protecteur du citoyen. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette et Sarah Collardé paru le 4 septembre 2025 dans Le Devoir. Des corridors trop étroits, des ascenseurs trop petits, beaucoup trop de personnel non qualifié. 6 ressources d'assistance continue, RAC, de la région de Lanaudière sont dans la mire du protecteur du citoyen, qui dénonce une situation particulièrement inquiétante dans un rapport publié récemment. Le bureau de Marc-André Daoud a reçu en décembre 2024 un signalement confidentiel quant à la qualité des services offerts aux patients hébergés dans 6 RAC du Centre intégré de santé et des services sociaux, 6, de Lanaudière. Il est à noter que ces résidences accueillent surtout des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui présente de graves troubles de comportement. D'emblée, les allégations étaient assez préoccupantes, explique la vice-protectrice du citoyen Assunta Gallo, qui est chargée de l'affaire. En février, Mme Gallo et son équipe ont visité incognito les 6 RAC concernés. Elles y ont alors constaté la gravité de la situation, raconte-t-elle au Devoir. L'enquête concernait 6 RAC créés depuis le début de la décennie pour répondre à la demande grandissante d'hébergement en réadaptation pour des patients présentant des troubles de comportement, mais aussi souvent une déficience physique. Il s'agit des RAC Saint-Louis, Ville-la-Vie, Jeunesse, de l'unité de stabilisation, Brien et Saint-Eusèbe. Elles accueillent au total 50 usagers. Selon le bureau du protecteur du citoyen, le 6 de Lanaudière a accepté de mettre en place l'ensemble des 4 recommandations contenues dans le rapport déposé récemment. Personnel et milieux inadéquats. L'équipe de Mme Gallo a noté que dans les 6 centres, le personnel était mal formé ou insuffisant pour répondre aux besoins des usagers. Certains centres étaient pires que d'autres. Dans l'un d'eux, seul le tiers des employés étaient qualifiés lors de son passage. Le taux de formation des employés varie de 44 % à 17 %, peut-on lire dans le rapport du protecteur du citoyen. Quand on accueille des personnes avec autant de besoins complexes, c'est essentiel que le personnel soit formé. Malheureusement, les enquêteurs ont constaté qu'il ne l'était pas, précise Mme Gallo. Un roulement de personnel très élevé aurait aussi complexifié la situation, dit-elle. les RAC accueillent des usagers de tous âges et de tous profils. Déficience intellectuelle, troubles graves du comportement, autisme. Plusieurs personnes dont les profils sont incompatibles y cohabitent, ce qui n'est pas optimal, souligne Mme Gallo. La vice-protectrice du citoyen note également que l'hébergement temporaire qu'offrent en principe les RAC est devenu permanent, faute de ressources et de personnel pour relocaliser les usagers. L'enquête révèle aussi que plusieurs locaux sont inadéquats et présentent d'importants risques tant pour le personnel que pour les patients. Dans le cas de la RAC Saint-Louis à Joliette, les lieux en soi compliquent l'assistance aux usagers. Si on doit faire une intervention, c'est presque impossible. Il y a des ascenseurs qui ne sont pas suffisamment grands. Si on est plusieurs personnes, ça pose des risques, affirme Mme Gallo. 4 recommandations. Le protecteur du citoyen formule 4 recommandations dans son rapport. En tête de liste, la relocalisation urgente de la RAC Saint-Louis, dont l'état physique est jugé problématique. L'Ombudsman de l'État québécois exige également que la formation d'au moins 75 % du personnel des 6 RAC concernés soit réalisée d'ici le 30 décembre. Suivent ensuite une demande d'encadrement sur place en continu à la RAC Ville-à-Vie ainsi qu'une redéfinition de la mission, des besoins et de l'offre de services des 6 RAC concernés. Contacté par Le Devoir, le 6 de la Naudière affirme être très sensible aux préoccupations soulevées et accepter toutes les recommandations du rapport du protecteur du citoyen. Nous avions déjà amorcé un plan d'action et nous l'avons ajusté en fonction des recommandations émises dans le rapport. Les suivis requis seront effectués auprès du protecteur du citoyen, a déclaré par courriel la directrice des communications du 6 de la Naudière, Pascale Lamy. Les usagers et leurs familles peuvent être assurés du sérieux et de l'importance que notre établissement accorde à cette démarche, assure-t-elle. La vice-protectrice du citoyen a affirmé que l'organisme collaborait bien avec son bureau et que l'implantation de ces 4 recommandations serait suivie de très près. C'était « Plusieurs résidences à assistance continue de la Naudière sont inadéquates », juge le protecteur du citoyen. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette et Sarah Collardet, paru le 4 septembre 2025 dans Le Devoir.